Chapitre 14. Jeudi 10 décembre, le soir. Yona observe le couloir obscur et désert. Il est presque 20 heures. Il ne reste plus que lui dans le service. Des étoiles de l'avant brillent sur toutes les fenêtres et les doux reflets des bougeoirs électriques dessinent des doubles halos sur les vitres noires. Anya a posé un bol de bonbons de Noël sur son bureau et il en mange plus qu'il ne devrait en rédigeant le procès-verbal de l'interrogatoire d'Evelyne. Après que les premiers mensonges d'Evelyne avaient été mis au jour, le procureur avait décidé de l'arrêter. Il l'avait informé des soupçons sur son implication dans les meurtres et de son droit à l'assistance d'un avocat. À partir de l'arrestation, l'enquête préliminaire disposerait d'un délai de 3 jours avant que ne soit prise la décision relative à la demande d'incarcération. Soit elle établirait suffisamment de preuves contre elle pour que le tribunal considère qu'il y a au moins une probabilité qu'elle soit coupable, soit elle serait remise en liberté. Yona sait très bien que le mensonge d'Evelyne ne signifie pas nécessairement qu'elle est coupable du crime, mais il a 3 jours pour essayer de découvrir ce qu'elle cache et pourquoi. Il imprime le procès-verbal, l'adresse au procureur et le dépose au courrier. Il vérifie que son pistolet est bien enfermé dans l'armoire forte pour armes, puis descend par l'ascenseur, sort du commissariat et s'installe dans sa voiture. Près de Friedemsplan, Yona entend son téléphone sonner, mais n'arrive pas à le sortir de son pardessus. Il a glissé dans la doublure par un trou de la poche. Le feu passe au vert et les voitures qui le suivent commencent à klaxonner. Il freine à l'arrêt de bus devant le restaurant de l'Association internationale pour la conscience de Krishna, extirpe le téléphone en secouant son manteau et rappelle.
Yona Lina, tu viens de m'appeler.
Oui, parfait,
dit l'agent de police Ronnie Alfredson.
Nous ne savons pas trop quoi faire.
Est-ce que vous avez parlé avec le petit ami d'Evelyne, Sohrab Ramadani?
Ça n'a pas donné grand-chose.
Vous l'avez cherché à son travail?
Ce n'est pas le problème, dit Ronnie. Il est là, dans l'appartement, seulement il refuse d'ouvrir, il ne veut pas nous parler. Il nous crie de foutre le camp, dit qu'on dérange les voisins, qu'on le tracasse parce qu'il est musulman.
Qu'est-ce que vous lui avez dit?
Que dalle. Simplement qu'on avait besoin d'aide dans une affaire. On a procédé exactement comme tu nous as dit.
Je comprends, répond Yona.
Est-ce qu'on peut forcer la porte?
J'arrive. Laissez-le tranquille en attendant.
On patiente dans la voiture devant la porte d'entrée?
Oui, s'il te plaît.
Yona met son clignotant et fait demi-tour. Dans l'obscurité, les fenêtres et les lumières de la ville éclairent le ciel comme si un dôme gris et brumeux la recouvrait. Il repense à l'enquête sur les lieux du crime, se dit qu'il y a quelque chose d'étrange dans la trame qui se dessine. Certaines des circonstances semblent tout bonnement incompatibles. Yona profite d'un feu rouge pour ouvrir le dossier sur le siège passager. Il feuillette rapidement les photographies du terrain de sport. 3 douches en enfilade. La lumière du flash se reflète sur les carreaux blancs. Une photo montre une raclette de douche avec un manche en bois. Elle est posée contre le mur. La lame en caoutchouc baigne dans une grande mare de sang, d'eau et de crasse, avec des cheveux, des pansements et un flacon de gel douche. Près du trou d'écoulement se trouve un bras entier. La tête de l'humérus est entourée de cartilage et de tissu musculaire tranché. Le couteau de chasse au bout brisé gît à terre dans la douche. L'aiguille a retrouvé le bout cassé à l'aide du scanner. Il était coincé dans l'os pelvien d'Anders Eck. Le corps, violemment lacéré, gisait à terre entre le banc en bois et les vestiaires en tôle cabossée. Un sweatshirt rouge pend à un crochet. Il y a du sang partout, sur le sol, les portes et les bancs. Yona tambourine sur le volant en attendant que le feu passe au vert. Les techniciens ont réussi à récupérer de nombreuses traces, des empreintes digitales, des fibres et des cheveux. Il s'agit d'une énorme quantité d'ADN provenant de plusieurs centaines d'individus, mais rien pour l'instant qui permette d'établir un lien avec Joseph Eck. Une bonne partie de l'ADN collecté est contaminée et les images mélangées compliquent considérablement l'analyse scientifique. Il a demandé aux techniciens de la police scientifique de concentrer leurs recherches sur le sang du père qui pourrait se trouver sur Joseph Eck. La grande quantité de sang provenant de l'autre scène de crime ne voulait rien dire. Tous, dans la maison, étaient imprégnés du sang des uns et des autres. Que Joseph soit recouvert du sang de sa petite sœur n'avait rien d'étrange, pas plus que le fait qu'elle soit recouverte du sien. Mais s'il trouve le sang du père sur Joseph, ou des traces de Joseph dans les vestiaires, il sera lié aux deux scènes de crime. Il suffit de trouver quelque chose dans les vestiaires pour engager des poursuites. Déjà à l'hôpital de Udinge, un médecin du nom de Sigrid Kranz avait reçu des instructions du laboratoire gouvernemental de la police technique et scientifique de Linköping qui effectue les analyses d'ADN en Suède. Elle devait faire en sorte de récupérer toutes les traces biologiques trouvées sur Joseph. Près du parc Egalid, Jona appelle Eriksson, un homme bien en chair, le technicien responsable de l'enquête sur les lieux du crime à Tumba.
« Arrête !»
répond une voix pâteuse.
« Eriksson ?» plaisante Jona. « Eriksson ? Tu es encore en vie ?»«
Je dors !»
dit la voix fatiguée.
« Désolé. »«
Non, ça va. En fait, je suis en train de rentrer chez moi. »«
Est-ce que tu as trouvé des traces de Joseph dans les vestiaires ?»«
Non. »
Tu dois en avoir trouvé.
Non,
répond Eriksson.
C'est que tu as bâclé ton travail.
Tu te trompes,
dit Eriksson d'une voix calme.
Est-ce que tu as fait pression sur nos amis de Linköping?
De tout mon poids.
Et?
Ils n'ont pas trouvé d'ADN appartenant au père sur Joseph.
Je ne les crois pas non plus, dit Jona. Enfin merde, il était imprégné de...
Pas une goutte,
l'interrompt Eriksson.
C'est pas possible.
Ils avaient l'air foutrement contents d'eux en me l'annonçant.
Et la LCN?
Non, même pas une micro-goutte, rien.
Merde, on ne peut pas avoir une telle poisse.
Il semblerait que si.
Non.
Tu vas devoir laisser tomber sur ce point,
dit Eriksson.
Ok.
Ils mettent fin à la conversation, et Jona se dit que ce qui peut ressembler à une énigme n'est parfois qu'une simple question de hasard. Les procédés de l'assassin sur les deux lieux semblaient identiques. Les coups de couteau déchaînés et les tentatives brutales de dépeçage. Il est donc très étrange qu'il n'ait pas trouvé le sang du père sur Joseph s'il en est l'auteur. Il aurait dû être imprégné d'une telle quantité de sang qu'il se serait fait remarquer, se dit Jona en rappelant Eriksson.
Oui?
Je viens de penser à un truc.
En 20 secondes?
Est-ce que vous avez examiné le vestiaire des femmes?
Personne n'y a été. La porte était fermée à clé.
La victime devait avoir les clés sur elle.
Mais...
Vérifie le trou d'écoulement dans la douche des femmes, dit Jona.
Après avoir contourné Tantolunden, Jona tourne dans une rue piétonne et se gare devant les tours qui dominent le parc. Il se demande où se trouve la voiture de police, vérifie l'adresse et envisage la possibilité que Ronnie et ses collègues aient frappé à la mauvaise porte. Il sourit. Cela expliquerait la réticence de Sorab à les laisser entrer, puisque dans ce cas, il ne s'agirait pas de Sorab. L'air du soir est froid. Il presse le pas en direction de la porte d'entrée et pense à la manière dont Joseph, sous hypnose, a décrit le déroulement des événements dans la maison. Si son récit correspond à la réalité, Joseph n'a rien fait pour dissimuler le crime durant l'acte. Il ne s'est pas protégé. Il n'a pas pensé aux conséquences mais s'est laissé asperger de sang. Jona se dit que Joseph Eck a peut-être décrit ce qu'il ressentait, un tumulte confus et furieux, alors qu'en réalité, sur place, il avait fait preuve de maîtrise et procédé de manière méthodique. Il s'était peut-être entièrement revêtu d'habits imperméables et douché dans le vestiaire des femmes avant de se rendre à la maison. Il faut qu'il parle à Daniela Richards. Il doit savoir quand, selon elle, Joseph Eck aura assez de force pour supporter un interrogatoire. Jona passe la porte, sort son téléphone et voit son visage dans les carreaux noirs du mur à damier. Le visage pâle, dur, le regard grave, les cheveux blonds ébouriffés. Devant l'ascenseur, il téléphone de nouveau à Ronnie, mais personne ne répond. Peut-être avait-il fait une dernière tentative et Sorab les avait laissés entrer. Jona monte au 6e étage. Attend qu'une mère avec une poussette descende par l'ascenseur, puis s'approche de la porte de Sorab et appuie sur la sonnette. Il attend un moment, frappe, attend encore quelques secondes, puis entr'ouvre avec les doigts la fente pour le courrier et dit
« Sorab, mon nom est Jona Lina, je suis de la police, je suis inspecteur.
Il y a un bruit derrière la porte, comme si quelqu'un s'y était appuyé lourdement, mais s'empressait maintenant de s'écarter.
« Vous étiez le seul à savoir où se trouvait Evelyn, » poursuit-il.
« Je n'ai rien fait, » dit un homme d'une voix grave depuis l'appartement.
« Mais vous avez raconté que... »«
Je ne sais rien, » crie-t-il.
« Très bien, » dit Yona. « Mais je veux que vous ouvriez la porte, que vous me regardiez et me disiez que vous ne savez rien. »«
Partez d'ici.
Ouvrez la porte. »«
Mais merde, vous ne pouvez pas me laisser tranquille. Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne veux pas y être mêlé. »
Sa voix est pleine d'angoisse. Il se tait, respire, frappe contre quelque chose.
« Evelyn va bien, » dit Yona.
La fente pour le courrier bruisse légèrement.
« Je pensais... »
Il se tait.
« Nous avons besoin de vous parler. »«
C'est vrai qu'il n'est rien arrivé à Evelyn. »«
Ouvrez la porte. »«
Je ne veux pas, je vous dis. »«
Ça m'aiderait si vous pouviez venir avec moi. »
Le silence s'installe entre eux un instant.
« Est-ce qu'il est venu ici plusieurs fois ?» demande soudain Yona.
« Qui ?»«
Joseph. »«
Qui c'est ?»«
Le frère d'Evelyn. » »«
Il n'est jamais venu ici, » dit Sorab.
« Qui est venu ici alors ?»«
Vous n'avez pas compris. Je n'ai aucune intention de vous parler. »«
Qui est-ce qui est venu ?»«
Je n'ai pas dit que quelqu'un était venu, d'accord ? Vous essayez seulement de m'entuber. »
« Non, c'est faux !»
Un nouveau silence. Puis un sanglot déchirant résonne de l'autre côté de la porte.
« Est-ce qu'elle est morte ?» demande Sorab. « Est-ce qu'Evelyn est morte ?»«
Pourquoi vous demandez ça ?»«
Je ne veux pas vous parler !»
Des pas s'éloignent à l'intérieur de l'appartement, suivis par le bruit d'une porte qui claque. La musique se met à hurler. Pendant que Yona descend l'escalier, il se dit que quelqu'un a dû forcer Sorab à révéler où se cachait Evelyn. Yona sort dans l'air froid et voit que deux hommes avec des vestes progym l'attendent près de sa voiture. Il se retourne en l'entendant arriver. L'un d'eux s'installe sur le capot, un téléphone collé à l'oreille. Yona les jauge rapidement. Tous deux ont la trentaine. Celui qui est assis sur le capot est complètement rasé. L'autre est coiffé comme un écolier. L'homme à la coupe au bol doit peser plus de 100 kilos. Il pratique peut-être l'aïkido, le karaté ou le kickboxing. Il prend probablement des hormones de croissance, se dit Yona. L'autre porte peut-être un couteau, mais vraisemblablement pas d'arme à feu. Une fine couche de neige recouvre le gazon. Yona se détourne comme s'il n'avait pas remarqué les hommes et se dirige vers la rue piétonne éclairée.
« Hé, le vieux !» crie l'un d'eux.
Yona les ignore et avance vers les marches situées près du réverbère et de la poubelle verte.
« Tu prends pas ta voiture ?»
Yona s'arrête et jette un rapide coup d'œil vers le haut du bâtiment. Il comprend que l'homme installé sur le capot parle avec Sorab au téléphone et que Sorab les observe de sa fenêtre. Le plus grand s'approche doucement. Yona fait volte-face et va à sa rencontre.
« Je suis de la police, » dit-il. « Et moi, un putain de singe, » dit l'homme.
Yona sort rapidement son téléphone et rappelle Ronnie. Sweet Home Alabama se met à retentir dans la poche de l'homme debout. Il déploie un large sourire, sort le téléphone de Ronnie et répond
« Ouais, c'est les flics. »«
À quoi vous jouez ?» dit Yona. « Tu vas foutre la paix à Sorab, il a pas envie de parler. »
Vous pensez que vous lui rendez service en...
C'est un avertissement. Je me fous de qui tu es. Tu ferais mieux de laisser ce rap tranquille.
Yona comprend que la situation peut dégénérer, se rappelle qu'il a enfermé son pistolet dans l'armoire forte du commissariat et cherche une arme autour de lui.
Où sont mes collègues? Tu m'as entendu? Tu vas foutre la paix à ce rap.
L'homme en face de lui passe rapidement la main sur sa coupe d'écolier. Sa respiration s'accélère. Il se tourne sur le côté, s'approche un peu et soulève le talon du pied arrière à quelques centimètres du sol.
« Je m'entraînais quand j'étais jeune, » dit Yona. « Si tu m'attaques, je me défendrai et je t'aurai. »«
On tremble, » dit le type assis sur la voiture.
Yona ne lâche pas du regard l'homme à la coupe au bol.
« Tu comptes me balancer des coups de pied dans les jambes, » dit Yona. « Vu que tu sais que tu es trop lourd pour frapper plus haut. »«
Crétin, » marmonne l'homme.
Yona se décale à droite pour ouvrir la ligne.
Si tu choisis de me foutre un coup de pied, poursuit Yona, je ne reculerai pas comme tu t'y attends. J'avancerai et je frapperai derrière le genou. Et quand tu partiras en arrière, ta nuque tombera sur ce coude.
Putain, c'est quoi ces conneries ?
Dit l'homme sur la voiture.
Ouais, ricane l'autre. Si tu sors ta langue, tu vas te la couper en deux, dit Yona.
L'homme à la coupe au bol se balance un peu, et quand le coup de pied part, c'est plus lentement que prévu. Yona a déjà fait un premier pas quand le basculement des hanches est engagé. Et avant que la jambe ne s'étire et n'atteigne son but, Yona envoie de toutes ses forces un coup de pied droit dans sa jambe d'appui. Déjà en déséquilibre, l'homme tombe en arrière au moment même où Yona pivote et le frappe à la nuque avec son coude.